Bienvenue dans la saison 2 de Oser, l'émission qui part à la rencontre des professionnels investis dans la construction d'un monde durable pour explorer avec eux comment s'engager dans leur métier pour avoir de l'impact et accélérer le passage au monde d'après. Nous allons parcourir différents secteurs afin de mieux les comprendre, d'en définir les enjeux et d'esquisser des pistes d'engagement. Oser est un podcast indépendant qui a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. J'ai besoin de votre soutien pour faire connaître le podcast en le partageant sur vos réseaux et en ajoutant un commentaire sur iTunes. Merci pour votre aide précieuse qui me permet de continuer l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai plutôt une mauvaise image du monde de l'assurance. Pourtant, quand on creuse le sujet, on se rend compte que c'est un secteur essentiel pour le bon fonctionnement de notre société et que celui-ci peut être un moteur extraordinaire pour accélérer la transition. Aujourd'hui, je vous propose de débroussailler le fonctionnement du secteur de l'assurance, de découvrir son modèle économique et ses enjeux face aux risques climatiques. Il y a énormément d'opportunités d'engagement et de modèles à développer dans ce métier, ne serait-ce que parce que face aux risques climatiques actuels et à venir, l'assurance n'a pas d'autre choix que de se réinventer pour continuer à exister. Bonjour Fanny.
Bonjour Jean-Philippe.
Fanny, tu as passé les 10 dernières années à travailler dans le monde de l'assurance au sein du groupe Admiral, à la fois en France et au Royaume-Uni, et tu es engagée au sein de l'entreprise pour la faire évoluer dans ses engagements sociaux et environnementaux. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble le secteur de l'assurance pour en comprendre les enjeux actuels, esquisser les besoins et les opportunités pour ceux qui veulent s'engager. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous en dire un peu plus sur ton activité en quelques mots ?
Oui, avec plaisir. Donc, en effet, ça fait 10 ans que je travaille dans le secteur des assurances et de l'assurance des biens plus particulièrement, auto et habitation étant les produits sur lesquels j'ai le plus travaillé. C'est un secteur que j'ai rejoint dès la fin de mes études à HEC, mais alors sans prédilection particulière pour le secteur. Les assureurs disent souvent qu'on rentre dans le secteur de l'assurance par hasard ou par hérédité. Moi, c'était clairement par hasard. Parce qu'à l'époque, mon employeur, qui est une compagnie d'assurance britannique, m'offrait une opportunité de rejoindre une aventure intrapreneuriale. Donc, c'est ça que j'ai rejoint plus qu'un secteur, finalement. Mais 10 ans plus tard, j'y suis encore. Et j'y suis encore parce que je me suis prise au jeu d'un secteur d'activité qui, je pense, est parfois mal aimé, parfois mal compris, qui est assez opaque. Et j'ai eu la chance d'y bâtir ma carrière à la fois en France et au Royaume-Uni. D'un point de vue perso, j'ai grandi en Lorraine, donc assez proche de la campagne. Donc, la nature, ça a toujours beaucoup compté pour moi, même si là, j'habite à Paris depuis une dizaine d'années avec quelques petites pauses au Royaume-Uni. J'ai 3 petites filles et 1 mari. Et comme beaucoup de gens, la naissance de ma famille, de mes enfants, a colludé quelque part avec une prise de conscience de la crise environnementale que notre monde traverse. Et ces deux choses ensemble ont vraiment fait naître, à la fois chez mon mari et moi, un désir de contribuer davantage à la cause dans nos vies pro et nos vies perso. On a tous les deux la chance d'avoir des belles carrières, mais des carrières qui nous laissent peu de moyens pour intervenir via la philanthropie, par exemple. Et du coup, comme on a 3 enfants, on a aussi assez peu de temps disponible dans nos vies personnelles pour faire énormément de bénévolat, même si on en fait un petit peu. Et donc, du coup, on a réalisé que c'était vraiment à travers notre travail auquel on consacre la majeure partie de notre temps qu'on devait avoir de l'impact. Et ça, c'est une réflexion qui a commencé il y a quelques années avec la naissance de notre premier enfant et qui s'impose de plus en plus comme une évidence.
Merci pour cette introduction, Fanny. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet et que tu débroussailles pour nous un petit peu le fonctionnement du secteur de l'assurance. On en parlait un petit peu tout à l'heure en intro de l'émission. C'est vrai que, alors on connaît tous l'assurance de nom, mais c'est difficile de bien comprendre son fonctionnement, son modèle, la manière de financer. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, quel est le modèle de ce secteur, les types d'assurance, les acteurs, comment est-ce que ça fonctionne? Pour qu'on comprenne un petit peu mieux de quoi on parle.
Tout à fait, avec plaisir. Donc, le modèle de l'assurance, c'est le suivant. Un client, qui peut être un particulier ou une entreprise ou une personne morale, souhaite s'assurer contre un risque. Donc, un risque en assurance, c'est un événement qui a une probabilité de se produire. Cette probabilité, elle ne peut pas être nulle, parce que si elle est nulle, ça veut dire qu'on ne peut pas le tarifer, ce risque. Mais la probabilité ne peut pas non plus être 1 de se produire, car là, ce n'est plus un risque, c'est une certitude. Donc, tu as ce risque, et l'assurance, elle est là pour, pas pour prévenir le risque, pas pour l'empêcher de se réaliser, mais pour, s'il se produit, ou plutôt quand il se produit, essayer de remettre le client dans une situation qui est la plus proche de sa situation avant le risque. Donc, pour cela, le client verse une prime périodique, donc typiquement qui est payée chaque année, mais ça peut être mensualisé ou ça peut être moins fréquent. Et cette prime, en regard de la magnitude du risque encouru, elle est faible. Pour te donner un exemple avec l'assurance auto, alors je pense que ça nous ennuie tous de payer notre assurance auto parce que la prime moyenne en France, c'est 500 euros par an et c'est une dépense contrainte. Donc, c'est quand même un vrai budget. Et quand on est un jeune conducteur, ça peut facilement faire 1500 ou 2000 euros par an. Donc, c'est une vraie contrainte. Mais cela dit, la magnitude du risque, notamment quand on parle d'accidents corporels avec des personnes qui se retrouvent dans des situations de handicap très fort où là, il y a énormément de coûts, en fait, à couvrir, la prime, elle reste finalement assez faible. Il y a un autre point à garder en tête quand on parle des primes, c'est que les primes, elles sont mutualisées. Ce qui fait que les personnes avec un risque plus élevé que d'autres peuvent tout de même s'assurer avec une prime qui, même si elle paraît élevée, finalement reste encore abordable par rapport à la magnitude du risque.
Alors, je t'interromps ici, je trouve ça très intéressant. Est-ce que tu peux creuser juste cette histoire de mutualisation ? Parce que c'est quelque chose dont on n'est pas forcément au courant sur le fonctionnement des assurances.
Un des gros facteurs de la rentabilité de l'assureur, c'est la taille de son portefeuille. Parce que ça permet à l'assureur de couvrir tout le monde, finalement, même les personnes qui ont un risque qui est plus élevé. Je reprends mon exemple des jeunes conducteurs. Un jeune conducteur qui a 18 ans, si tu veux, donc c'est la première année d'assurance, a quasiment une chance sur trois d'avoir un accident pendant sa première année. Donc, c'est énorme comme probabilité. Et un accident, ça peut n'impliquer que de la tôle froissée, donc peut-être un coup de sinistre de 15, 20 000 euros s'il y a, par exemple, quelqu'un d'autre impliqué dans le sinistre. Tu vois, une collision simple entre deux voitures sans blessés. Mais s'il y a des personnes blessées, les sinistres peuvent augmenter et atteindre plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions, pas plusieurs centaines de millions, mais pas loin quelque part. On peut imaginer en tout cas des sinistres à plusieurs centaines de millions. Et donc, le fait que dans le portefeuille, il y ait à la fois ces jeunes conducteurs qui ont une chance sur trois d'avoir un accident en année 1 et des conducteurs plus expérimentés qui, eux, ont beaucoup moins de chances d'avoir d'accidents. Et quand ils en ont, les accidents sont beaucoup moins graves, donc coûtent moins cher, permettent aux jeunes, finalement, de s'assurer avec une prime qui est de l'ordre de 2 à 4 fois la prime moyenne de la population, alors que s'ils couvraient leur propre risque, la prime serait inabordable, en fait.
D'accord, c'est très clair. Du coup, je te laisse continuer sur le fonctionnement et le modèle des assurances.
Oui. Alors, comment l'assureur gagne de l'argent ? Donc, l'assureur, il gagne de l'argent, en gros, de deux manières différentes. Et après, ça varie selon le type de produit et aussi selon la stratégie des assureurs. Il y a deux façons. La première, c'est un gain technique, ce qu'on appelle un gain technique. La deuxième, c'est un gain financier. Donc, le gain technique, je vais te le présenter. C'est quand l'assureur arrive à collecter davantage de primes qu'il ne verse en sinistre et en coûts de fonctionnement. Les coûts de fonctionnement sont le marketing, les salaires, les locaux, etc. Et donc, c'est pour ça qu'une mesure clé de la performance en assurance, c'est un ratio qu'on appelle le ratio sinistre sur prime. Et il y a un autre ratio qu'on appelle en français le ratio combiné, où là, tu as sinistre plus coût de fonctionnement divisé par les primes. Donc ça, c'est la mesure technique de la rentabilité de l'assureur. Et souvent, finalement, ce gain technique, il est assez faible. Si tu prends, par exemple, l'assurance auto en France, très souvent, ce ratio combiné, il est autour de 100%. Il peut être un petit peu moins, il peut être un petit peu plus, mais il est très souvent autour de 5%. 5% selon les années, ça varie assez peu, finalement. Et la raison pour laquelle les assureurs peuvent accepter ça, c'est que souvent, ils offrent plusieurs produits. Et donc, ils peuvent accepter un ratio combiné plus faible sur certains produits, par exemple l'assurance auto, parce que ça leur permet d'attirer un client et ensuite de pouvoir proposer des produits à plus forte rentabilité à ce client. On sait que les gens, ils changent assez peu d'assurance, finalement. Ce n'est pas un achat plaisir. Donc on ne se dit pas chaque matin, allez, je vais changer d'assurance. On change d'assurance à des moments assez précis de sa vie, par exemple quand on achète une nouvelle voiture ou quand on déménage. Et donc, du coup, il y a une grosse fidélité et loyauté des clients. Et donc, tu as ce phénomène un peu de produit d'appel pour certains produits d'assurance courants. Et tu as derrière des produits qui ont une rentabilité plus forte qui pourraient être vendus aux clients au fil de la relation. Il y a un autre élément à prendre en compte sur la rentabilité et qui est très protecteur pour les consommateurs, c'est que cette rentabilité, elle est un peu capée par le régulateur. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que le régulateur ne souhaite pas, et il a raison, que l'assureur propose des produits qui sont trop rentables. Parce que ça voudrait dire que la prime est finalement beaucoup trop élevée en regard du risque et que finalement le client n'achète rien si le risque a une probabilité extrêmement, extrêmement faible de se produire et que l'assureur constate ça dans son portefeuille, c'est-à-dire il constate que finalement il y a peu de sinistres ou que le coût de ces sinistres est très faible en regard de la prime qui est collectée, alors l'assureur est appelé par le régulateur à une modération de la prime. Ce qui permet de créer un marché qui reste protecteur pour le consommateur.
Là, tu nous parles de la France, mais c'est le cas dans tous les pays ?
Dans tous les pays, je ne saurais pas te dire, mais c'est le cas au Royaume-Uni et j'imagine dans la majorité des pays européens, oui.
D'accord, ok.
Le secteur de l'assurance a, dans tous les pays, j'imagine, mais notamment dans les pays occidentaux, a en général un régulateur très actif, un peu comme les banques, parce que ça reste un produit financier. Et donc ça, c'est en général protecteur du consommateur.
D'accord.
La deuxième manière qu'a l'assureur de faire de l'argent, c'est de réaliser des placements avec les primes collectées et de réaliser du coup un bénéfice sur ces placements. L'assureur, il collecte la prime avant de payer le sinistre. Donc forcément, il y a un excédent de trésorerie et cet excédent, il peut être placé, il peut être investi et il peut rapporter des intérêts à l'assureur. C'est intéressant, mais en même temps, ce n'est pas aussi important pour tous les types d'assurance. Là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Si tu prends l'assurance habitation, par exemple, l'assurance auto, ça serait la même chose. Les contrats sont de 12 mois et même si les clients sont fidèles, il y a quand même un churn de ces clients qui se fait. En moyenne, un client reste peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans chez l'assureur. Donc, c'est des contrats qui sont courts et où la loyauté est importante, mais où la durée de vie du client est finalement assez, assez courte également. Et en plus, tu as des sinistres qui sont fréquents. Donc, sur un portefeuille d'assurance auto ou habitation, selon les acteurs, tu peux avoir, par exemple, peut-être 20% du portefeuille qui a un sinistre chaque année. Okay, donc, forcément, il faut que tu aies les primes disponibles pour payer ces sinistres quand ils arrivent. Donc, tu as finalement assez peu de temps en tant qu'assureur pour faire des placements qui sont rémunérateurs. Tu as très, très peu de temps pour faire fructifier cet argent. Et donc, du coup, ce n'est pas un contributeur important à la rentabilité sur ces produits-là.
Alors, attends, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi le fait de rester seulement 1, 2 ou 3 ans dans une même assurance va impacter la rentabilité ? Parce que l'argent qui est déposé, si je le comprends bien, donc on va dire, par exemple, mon assurance habitation, ça tombe bien, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, donc je vais payer, je veux dire, je ne sais pas, 20, 30 euros par mois d'assurance habitation. Que je reste 1 an, 2 ans ou 3 ans, en fait, ce que ça va changer, c'est la somme que j'ai déposée chez mon assureur. Mais au final, il ne va jamais me rembourser cet argent.
Alors, il ne va pas te rembourser toi, mais il y a d'autres personnes dans le portefeuille de cet assureur qui vont avoir des sinistres.
D'accord.
Et donc, il va utiliser tes primes à toi pour régler le sinistre de ces personnes. Et vice-versa, le jour où toi, tu as un sinistre, un sinistre habitation, si par exemple dans ton nouveau logement tu as un dégât des eaux et que tu habites en appartement et que ce dégât des eaux il est derrière ton réfrigérateur, tu mets une semaine peut-être à t'en rendre compte et du coup ça a coulé chez tous tes voisins du dessous, c'est un sinistre qui va aller chercher donc plusieurs dizaines de milliers d'euros si tu veux, pour l'assureur. Alors que toi, tu n'as pas versé, bien sûr, plusieurs dizaines de milliers d'euros de primes. Donc cet argent, il va être cherché chez d'autres assurés, en fait. Et c'est là que la mutualisation intervient. Le deuxième élément à prendre en compte aussi, c'est que les assureurs doivent garder des ratios de solvabilité. Donc, ils doivent avoir dans leur compte en banque suffisamment de cash pour couvrir un certain nombre de fois les sinistres attendus dans une année. Et donc, du coup, ça veut dire que le cash disponible finalement pour investir ailleurs, il reste assez faible pour l'assureur.
D'accord. Un petit peu comme pour les banques.
Exactement.
Et c'est les mêmes ratios, banque-assurance ou...
Ce n'est pas tout à fait les mêmes textes européens qui régissent ça. Pour l'assurance, c'est un test qui s'appelle Solvabilité 2. Le ratio, je crois qu'il est environ... je crois qu'on considère qu'avoir entre 2 et 3 fois le montant des sinistres attendus en cash, enfin, disponible en tout cas, c'est un bon ratio de solvabilité.
D'accord, et j'imagine qu'il y a certains placements qui sont en gros équivalents à des liquidités aussi.
Voilà, il peut y avoir des placements qui sont équivalents à des liquidités, mais du coup, ils sont souvent peu rémunérateurs.
D'accord, bon, je suis désolé, j'arrête de t'interrompre.
Non, mais...
Je te laisse revenir sur le fonctionnement des placements.
Voilà, donc ça, c'est là, on a parlé du coup du cas de l'assurance, par exemple, auto ou habitation. Si tu prends le cas de l'assurance vie, alors là, c'est complètement différent. Pour l'assurance vie, le gain financier de placement, il est essentiel à la rentabilité de l'assureur. Et c'est là que l'assurance vie, c'est fascinant. Alors, quand je parle d'assurance vie, on a une petite particularité en France, c'est ce qu'on appelle communément assurance vie. En fait, c'est un placement financier que tu fais auprès de ta banque et qui est finalement relativement liquide. Moi, je parle du marché de l'assurance vie au niveau global. Pour le monde de l'assurance, c'est plutôt de l'assurance décès. C'est-à-dire, c'est un capital qui est versé à tes ayants droit quand tu meurs. Donc, c'est par exemple, typiquement, c'est l'assurance emprunteur quand tu achètes un logement. C'est une assurance décès qui va venir verser un capital en cas de décès. Et puis, en général, tu as des options d'invalidité, d'incapacité de travail, etc., qui peuvent venir s'ajouter. Et donc, quand l'événement se produit, un capital est versé, alors soit à toi si jamais c'est de l'invalidité, soit à tes ayants droit si jamais tu es décédé. Et donc, l'assurance vie, le sinistre n'arrive qu'une fois finalement, puisque le sinistre, c'est le décès. Donc, il n'arrive qu'une fois. Et en général, chaque année, il a peu de probabilité de se produire. C'est-à-dire, même si on meurt tous, finalement, il y a peu de gens qui meurent chaque année, en fait. Et donc, comme il a peu de probabilité de se produire, et qu'en plus, en général, même si les contrats sont de 12 mois, les gens ont tendance à rester très longtemps. Tu vois, avec ton assurance emprunteur sur ton logement, ce n'est pas quelque chose que tu changes chaque année. Là, il y a beaucoup de temps pour faire fructifier le capital versé. Il y a autre chose qui est intéressant dans l'assurance vie, c'est que le montant du sinistre, il est déterminé à l'avance. C'est-à-dire que quand tu prends une assurance emprunteur, ton assureur, il sait exactement quel est le montant maximal du sinistre qu'il va verser, puisque le capital à verser, il est, même s'il peut varier dans le temps, il est connu, en fait, à l'avance. Et c'est très transparent. Et donc, du coup, les marges techniques sont beaucoup plus faibles parce qu'il y a pas mal de concurrence et qu'il y a peu d'influence, finalement, de l'expertise de l'assureur, ni sur la survenance du sinistre, ni sur le montant du sinistre.
Alors, je t'interromps encore juste pour être sûr de bien comprendre.
Oui.
Donc, parce que je n'ai jamais acheté de logement moi-même.
Ouais.
Mais donc, si tu prends une assurance emprunteur, c'est-à-dire que tous les mois, tu verses de l'argent dessus et c'est ce capital que toi-même tu verses qui va être remboursé en cas de décès, enfin, ou en tout cas à tes ayants droit en cas de décès. C'est pas hyper clair pour moi.
Oui, alors non, c'est pas exactement comme ça, parce que si c'était ça, ça serait simplement un produit de placement. Et c'est pas un produit de placement, c'est un produit d'assurance. Moi, j'ai acheté un logement très récemment, donc je peux t'en parler. Donc oui, tous les mois, tu verses de l'argent, tu payes ta prime en fait. C'est pas que tu verses de l'argent, c'est que tu payes ta prime. Et en échange, l'assureur, si jamais je décède, va venir verser à la banque, à ma banque, l'équivalent de la moitié de ce qui reste à payer en gros sur mon logement, pour que mon conjoint n'ait plus qu'à tenir la moitié du prêt chaque mois, au lieu de 100%.
D'accord, ok, je comprends. C'est une assurance en cas de décès avant, en fait, d'avoir remboursé complètement son logement.
Exactement. C'est tout à fait ça. Mais alors, moi, je peux... Moi, j'ai 34 ans, tu vois, et j'ai un prêt immobilier sur 25 ans. Je peux mourir le mois prochain d'un accident, je peux mourir d'une maladie dans les 5 ans, ou je peux aussi tout à fait ne pas mourir pendant toute la vie de mon prêt. Après tout, oui, j'ai 34 ans, un prêt de 25 ans, j'aurai moins de 60 ans si jamais je rembourse mon prêt jusqu'au bout. Bon, il n'est pas du tout improbable, en tout cas j'espère, vivre, être encore en vie et en bonne santé à l'âge de 60 ans. Et donc dans ces cas-là, bah, j'aurai versé 25 ans de prime pour... pas pour rien, parce qu'en fait, ce que j'ai acheté avec mes 25 ans de prime, c'est la tranquillité d'esprit que si jamais il m'arrivait quelque chose, ma famille serait dans des conditions financières acceptables.
Et ça, tu peux choisir en fait le montant que l'assurance te garantit. C'est la moitié du capital, l'intégralité du capital, etc.
Alors oui, quand tu souscris une assurance vie, tu peux choisir le montant du capital que tu souhaites assurer. Le cas de l'assurance emprunteur, il est un peu différent parce que donc l'assurance emprunteur, elle est, c'est en fait c'est une obligation assortie à l'octroi d'un prêt immobilier pour les banques. Donc, c'est à la fois une manière de protéger la famille en cas de décès de la personne qui a souscrit l'emprunt, et c'est aussi une manière pour les banques de protéger le capital qu'elles ont prêté. Alors dans le cas de l'assurance emprunteur, les banques exigent en général que 100% du montant du prêt soit couvert. Et après, le calcul au sein de la famille pour savoir typiquement si tu as un seul emprunteur, la question ne se pose pas. Si tu as un couple avec deux emprunteurs, il faut que la somme du capital fasse 100%. Donc, par exemple, mon mari et moi, on a à peu près les mêmes revenus. Du coup, si lui décède demain, moi, je dois pouvoir, avec mes revenus, assurer 50% du montant des remboursements mensuels. Okay ? Et vice-versa, dans son cas à lui, si jamais moi je décède demain, il doit pouvoir assurer 50%. Du coup, on a tous les deux, on a chacun une assurance vie qui couvre 50% du montant du prêt. Donc, nos deux 50% ensemble, ça fait 100%. Si on meurt tous les deux, eh ben 100% du prêt est remboursé et nos enfants ont notre appartement. Si jamais l'un de nous deux meurt, 50% reste à la charge de l'autre.
D'accord, bah c'est très clair. Voilà. Merci.
Donc, si jamais tu as une inégalité de revenus au sein du foyer, tu peux faire des choix différents. Tu peux, par exemple, il n'y a qu'une personne qui a un travail rémunérateur dans le foyer, tu peux imaginer que cette personne s'assure à 100%. Et que l'autre personne soit assurée à zéro, par exemple. Il n'y a pas d'assurance vie pour cette personne, parce que, voilà, en général, dans les faits, ce n'est pas le choix qu'on fait, mais il faut que la somme fasse 100%. Voilà.
D'accord. Et alors, tu nous disais, avant que je t'interrompe à nouveau, que l'assurance vie était un placement très intéressant pour les assurances. Je te laisse peut-être repartir là-dessus.
Alors, ce que je veux dire, c'est que l'assureur a le temps de collecter beaucoup de primes avant de régler le sinistre. Et donc, avec ce temps, ça permet à l'assureur d'accéder à des placements financiers avec ses primes et de les faire fructifier. Voilà, c'est ça que je voulais dire, en fait.
D'accord, ok, oui, c'est que... Tu n'as pas une durée de vie de 2-3 ans, comme tu pouvais le dire, sur l'habitation ou l'automobile. Là, on sait déjà, en fait, y a beaucoup plus de certitude.
Voilà, on sait exactement. C'est-à-dire qu'on a une certitude en général, on a une certitude sur le montant du sinistre à rembourser, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans l'assurance auto, où un sinistre peut coûter 1 000 euros si c'est un pare-brise cassé, jusqu'à 100 millions pour un sinistre impliquant de multiples personnes et qui ont subi des blessures qui changent leur vie. Alors que dans le cas de l'assurance vie, on est assuré pour un capital qui est connu à l'avance lors de la souscription du contrat.
Alors, si je te lance maintenant sur la compréhension un peu du monde de l'assurance ou du secteur de l'assurance dans l'économie ou dans notre société, en quoi est-ce que c'est un secteur important et pourquoi est-ce que finalement il régit beaucoup de choses?
Oui. Alors c'est un secteur, ouais, c'est un secteur important pour, je dirais, pour, et j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je diviserai la réponse en deux grands axes et ensuite on pourra les explorer ensemble. Ouais. Le premier, c'est la protection des entreprises et des particuliers. Donc l'assurance, c'est ce qui permet aux particuliers et aux entreprises de prendre des risques, voilà. Parce que les risques sont en partie couverts par l'assurance de manière générale. Et le deuxième grand axe, c'est justement ce pouvoir d'investissement. Le fait que les assureurs sont des entreprises qui ont de l'argent à investir et qui, du coup, peuvent modeler l'économie indirectement en décidant de placer leur argent dans un secteur ou dans un autre, dans un placement ou dans un autre.
OK.
Donc le premier axe, c'est la protection des entreprises et des particuliers. Donc oui, l'assurance, c'est ce qui permet de prendre, c'est ce qui permet de prendre des risques en fait, et finalement de vivre. Quand tu reprends le cas de l'assurance auto, si jamais il n'y avait pas. D'ailleurs, les assurances auto sont obligatoires et c'est pour une raison. Si elle n'était pas obligatoire, on sait tous qu'on risque notre vie en conduisant, puisqu'il y a des gens qui meurent chaque année sur la route. Le fait d'avoir l'assurance, c'est ce qui permet quand même aux gens de prendre leur voiture et de vivre une vie normale et de conduire. C'est ce qui permet aux gens d'emprunter de l'argent pour acheter leur résidence, par exemple. Parce que s'il n'y a pas l'assurance emprunteur, le risque serait très élevé en fait, et donc du coup les banques seraient encore plus frileuses pour prêter de l'argent et les particuliers ne pourraient pas s'engager pour acheter des résidences principales dans les proportions où on le voit arriver dans notre société. Et donc il y a un certain nombre de produits d'assurance qui sont obligatoires pour cette raison, parce que ça protège le client, mais ça protège aussi les autres personnes. Si jamais personne n'était assuré sur la route, par exemple, et que toi tu avais une collision avec une autre personne, et imaginons que ça soit la faute de cette autre personne, et que tu subissais des blessures qui font que tu doives aménager ton logement, qui font que tu ne puisses plus travailler ou ce genre de choses, s'il n'y avait pas d'assurance, tu n'aurais rien pour pouvoir faire face à tous ces changements. Et vice-versa, si jamais tu causais un accident qui entraînait ce type d'événement pour d'autres personnes, et ben potentiellement, non seulement ces personnes n'auraient certainement pas tout l'argent dont elles ont besoin pour continuer pour faire les adaptations à leur vie, mais également, toi, tu serais certainement dans une situation où toute ta vie, tu devrais entretenir et verser de l'argent pour réparer les dommages causés, en fait.
Oui, ce qui est le cas dans plusieurs pays d'ailleurs, puisque ce sont des histoires parfois un peu sordides et tristes qu'on entend, où effectivement, sur une action, tu dois payer le reste de ta vie, parce que tu n'avais pas justement d'assurance.
Exactement, et d'ailleurs, je crois que c'est l'organe, la Fédération française des sociétés d'assurance, ou un autre organe du même type, qui est en train de faire une campagne sur YouTube, pour justement mettre en garde les personnes qui seraient tentées de ne pas s'assurer. En fait, effectivement, voilà, tu peux avoir des histoires extrêmement, extrêmement tristes. Et si ce risque n'était pas couvert par l'assurance, ça voudrait dire quand même certainement moins de déplacements et ça voudrait dire une vie très différente, en fait.
D'accord. Et alors ça, je pense qu'on le comprend bien parce qu'on a tous pris une assurance auto ou une assurance habitation et c'est quelque chose qu'on visualise bien. Après, sur le second axe dont tu parlais et notamment les placements financiers, je suis assez intéressé par essayer de creuser un petit peu avec toi parce que c'est quelque chose que généralement on comprend mal. Hein. Tu l'as évoqué déjà dans le business model des assurances, en fait, qui est toute une partie placement qui fait la rentabilité ou non d'un produit d'assurance. Et puis aussi, en quoi ces placements sont importants?
Ces placements, ils sont importants. Oui, tout à fait. Alors, ces placements, ils sont importants parce que, déjà, il y en a beaucoup. Donc, l'assureur, les assureurs et les réassureurs, on peut parler des réassureurs un peu plus tard, c'est des entreprises qui ont... qui collectent énormément de primes et qui, du coup, ont pas mal de cash à investir. Donc, rien que par la taille, en fait, des capitaux dont les assureurs disposent, ils ont un rôle important à jouer.
Est-ce que tu as quelques chiffres, peut-être, en tête à nous donner pour qu'on se fasse un petit peu une idée de l'ordre de grandeur, en tout cas, de ces investissements?
Oui, donc la taille, la taille de Sanlisson. Pour te donner un ordre de grandeur, par exemple, pour la France, l'assurance vie en termes de primes, c'est à peu près en 2019, c'était à peu près 170 milliards de dollars. Tu peux imaginer que la majeure partie de ces investissements partent en investissement dans des supports.
Ouais, 170 milliards de dollars juste pour la France. Ouais, on parle pas de petit argent, ouais.
Non, c'est vraiment des grosses sommes.
Et ces placements, ils vont où? Ils sont investis dans quoi?
Alors, ils sont investis dans plusieurs choses. Donc, il y a une grande partie qui est investie sur des supports d'État, assez stables, peu rémunérateurs, assez liquides. Et ça, c'est notamment pour pouvoir pourvoir au ratio de solvabilité et garder une approche assez prudente. Et ensuite, ils peuvent être investis dans d'autres bonds d'entreprise, dans des stocks également. Alors, c'est pas la majorité, c'est assez faible, mais c'est là qu'il y a vraiment le modelage de l'économie qui peut se faire en fait.
Transition superbe par rapport à l'impact du secteur de l'assurance dans la transition. Comment est-ce que en fait le secteur de l'assurance peut permettre de faciliter, d'accélérer, d'accompagner la transition dont on a besoin?
Oui, alors du coup là il y a plusieurs manières de faire. Donc pour terminer sur la partie investissement. Donc, clairement, il y a un mouvement des assureurs pour utiliser davantage des critères de type ESG dans les investissements qu'ils font. Donc, tu sais que tu dois être au courant, il y a différents organismes de scoring, Sustainalytics étant un, mais il y en a plusieurs, qui permettent aux investisseurs de faire des choix plus écologiques sur la manière dont ils placent leur argent. Il y a parfois aussi un retrait de certains secteurs, où on peut envisager des retraits de certains secteurs considérés comme moins éthiques. Et là, ça peut être soit des secteurs, typiquement pour la transition écologique, c'est parfois le secteur pétrolier, mais tu peux aussi avoir des choses qui vont au-delà de la transition écologique, comme les armes à feu, le tabac, des industries dont les assureurs peuvent souhaiter se désinvestir, ou peuvent envisager de se désinvestir si toutefois ils y sont déjà investis. Et une autre chose qui est faite, et AXA fait beaucoup à ce sujet notamment, donc je peux inviter les gens qui nous écoutent à aller regarder ce que AXA fait, c'est dédier une partie du capital investi sur des secteurs qui sont à fort enjeu de transition écologique. Ça peut être classiquement l'éolien ou le solaire. Donc ça, c'est pour la partie investissement. Ensuite, là où les assureurs ont un rôle qui est très important et je ne sais pas s'il est forcément c'est forcément le premier qui me saute à l'esprit, c'est créer et améliorer les produits pour protéger en fait contre les risques climatiques. Donc on sait que la transition écologique elle est nécessaire, mais on sait aussi que les changements climatiques malheureusement ils sont déjà enclenchés. Et que là, ce qu'on essaye de tous faire en tant que personne et société, c'est limiter en fait la magnitude de ces changements. Mais on sait déjà qu'ils sont déjà en train d'arriver en fait, et qu'il y en a une partie qu'on pourra pas éviter. Et donc là, les assureurs, ils ont un gros rôle pour s'adapter et créer des produits qui vont permettre à la société de faire de la mitigation de ces risques. Pour te donner quelques chiffres sur ce sujet, donc les risques climatiques pour les assureurs, c'est un enjeu stratégique qui est très fort et qui est présent dans la majeure partie des rapports annuels des gros assureurs et des réassureurs. Et la raison, c'est que c'est vraiment un risque qui est grandissant à la fois en fréquence. Je pense que tu dois connaître l'anecdote des ouragans aux États-Unis qui suivent un ordre alphabétique et chaque année qui passe, on arrive de plus en plus aux lettres qui sont à la fin de l'alphabet parce qu'on a de plus en plus d'occurrences de ce type d'événement. Donc en fréquence, il y a une forte augmentation et en valeur également, il y a une forte augmentation parce que il y a de plus en plus de valeurs dans le monde, donc il y a de plus en plus de constructions, de plus en plus de voitures, etc. Et donc forcément, la valeur et le montant des sinistres augmentent. Donc en 1970, il y avait à peu près 15 milliards de pertes qui étaient dues aux catastrophes naturelles dans le bilan des assureurs. En 2016, c'était 170 milliards. Donc c'était 10 fois plus. Et 2016 était plutôt une bonne année. Je crois qu'en 2015, il y a eu une année un peu exceptionnelle où c'était quasiment deux fois ce montant. Et les trois quarts de ces risques, à l'heure actuelle, ils ne sont pas assurés. Les trois quarts des risques climatiques ne sont pas assurés. Et ça, c'est vraiment inquiétant. C'est pour ça que tu vois la croissance de ce qu'on appelle l'assurance paramétrique. Est-ce que c'est quelque chose dont tu es familier ?
Alors, absolument pas. Et alors, j'avais d'abord une question préalable. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas assurés, ces risques-là ?
Alors, ils ne sont pas assurés principalement parce que... Donc, mon analyse, c'est que principalement que les produits ne sont pas adaptés, en fait, à ce risque, au risque. Par exemple, parce que les risques climatiques dans l'assurance auto et l'assurance habitation, ils sont plutôt bien intégrés. C'est-à-dire que c'est une des garanties standards de ces contrats. Alors, même si pour l'assurance habitation, tu as parfois des difficultés qui sont que pour les logements qui sont situés dans des zones inondables et où tu as du coup une recrudescence des événements d'inondation, ça veut dire que les personnes qui habitent là éprouvent des difficultés à s'assurer. C'est-à-dire que soit il y a beaucoup d'assureurs qui ne les acceptent pas du tout en portefeuille parce que le risque est considéré comme trop grand, soit quand ils les acceptent, la prime du coup est très élevée et peu abordable. Et là, le régulateur a un rôle à jouer typiquement pour forcer en fait les assureurs à assurer quand même ces personnes. Au Royaume-Uni, il y a un scheme qui a été mis en place il y a 4 ans. Il y a énormément d'inondations au Royaume-Uni, de manière générale. Et donc, ce scheme, en gros, définit à l'avance un prix d'assurance pour ces zones inondables, pour que les gens puissent quand même s'assurer, en fait, à un prix qui reste acceptable.
D'accord, ok. Et alors, non, le nouveau type d'assurance dont tu parlais, alors, dont le nom m'échappe, j'ai jamais entendu parler de ça.
Alors, l'assurance paramétrique, c'est une assurance qui est typiquement dédiée à la protection contre les risques climatiques. Et alors, tu sais, un peu plus tôt, on a parlé du fonctionnement des assurances et j'ai expliqué que l'assurance, elle n'a pas comme but essentiel de prévenir le risque. On va y revenir, en fait. Oui, on peut prévenir. On a un rôle à jouer à prévenir certains risques. Mais que le rôle essentiel, c'est de remettre l'assuré dans la position qui est la plus proche de sa position antérieure, de l'indemniser dans le sens propre du mot. Et donc, ça sous-entend que quand le sinistre se produit, il y a tout un travail d'estimation de la taille de ce sinistre et de quel est le montant en fait à régler. Et cette estimation, c'est ce qui permet de remettre l'assuré au plus proche de sa position antérieure.
Le remettre dans sa position antérieure au niveau financier.
Au niveau financier et au niveau de sa vie. Alors, si tu as eu un accident qui est, comme diraient les Anglais, life-changing, que tu es par exemple à présent handicapé en fauteuil roulant, évidemment, l'assurance ne va pas pouvoir te permettre de retrouver l'usage de tes jambes. En revanche, ce que l'assurance va faire pour te remettre dans une position antérieure, c'est par exemple te permettre d'adapter ton logement pour que tu puisses rester dans ton logement que tu avais avant, et y poursuivre ta vie. Donc, par exemple, aménager ta salle de bain pour que tu puisses y rentrer avec un fauteuil, installer des barres pour que tu puisses te hisser sur une chaise, descendre tous tes meubles de cuisine à une hauteur où tu puisses cuisiner en étant assis dans un fauteuil. C'est pour que tu puisses en fait récupérer les pans de ta vie que tu as perdu à cause de l'accident. Et donc, ça a une valeur financière. Enfin, c'est fait. Alors, les assureurs vont en général plus loin dans l'accompagnement. Ils ne se contentent pas de faire un chèque. Mais, à sa plus simple expression, ça revient en fait à estimer et à faire un chèque. Et donc, l'estimation de ce sinistre, elle est longue en général. Elle prend du temps. Et ça, c'est le cas pour à la fois donc pour les sinistres corporels, hein, quand des personnes sont blessées, pour estimer complètement la taille du sinistre, ben, il faut le temps que la situation de la personne se consolide, qu'on comprenne exactement quel est l'ensemble des changements en fait pour cette personne. Et donc, ça prend typiquement plusieurs années à chiffrer. L'assurance paramétrique pour les risques et pour les risques climatiques, c'est extrêmement complexe de chiffrer et on l'a vu récemment avec les inondations qui ont eu lieu dans le sud de la France. Entre le moment où l'inondation a lieu et le moment où les personnes ont accès au capital pour pouvoir reconstruire leur maison ou nettoyer leur maison, ben, y a beaucoup de temps qui se passe. Et ça, c'est pas très satisfaisant toujours d'un point de vue pour l'assuré. L'assurance paramétrique, c'est un peu comme l'assurance vie, c'est en fait, on va décider à l'avance du capital à verser. Au moment de la souscription du contrat, on va dire, si tel événement se produit, par exemple, s'il y a une crue dans ta maison et que le niveau d'eau dans ta maison atteint 110 cm, voilà, nous allons te verser 300 000 euros. Et donc ça, c'est connu à l'avance. Et du coup, ce qui va déclencher le versement des 300 000 euros, c'est la survenance de l'événement. Et non pas l'assessment de la dégradation de l'impact de l'événement sur l'assuré. Et donc ça accélère énormément le paiement et ça permet aussi de couvrir des risques qui sont beaucoup plus petits et du coup de donner accès à cette assurance à un nombre de personnes beaucoup plus élevé. Pour te donner un exemple, on a une personne bah, qui était à HEC avec nous, qui s'appelle Simon Schwal, qui a monté une start-up qui s'appelle OCO et qui propose de la micro-assurance en partie paramétrique pour des petits agriculteurs qui sont au Mali et en Ouganda.
J'ai interviewé sur Osé il y a quelques semaines.
Parfait, parfait. Et donc, grâce à l'assurance paramétrique, ça veut dire qu'on n'a pas à déclencher tout ce travail d'estimation de la taille du sinistre qui est coûteux pour l'assureur et qui, du coup, fait un business model qui ne fonctionne pas très bien. Et en plus, c'est assez satisfaisant pour l'assuré parce que l'assuré peut vraiment choisir en fait, le niveau de risque qu'il souhaite couvrir et ensuite avoir un règlement très rapide. Et donc, ça offre la possibilité de créer des produits qui sont très digitaux, très facilement accessibles, très faciles à souscrire, où on peut couvrir des risques qui sont de plus petites ampleurs, tu vois, couvrir un risque d'inondation sur une petite parcelle de terre, par exemple. Et donc, ça donne la possibilité à des petits agriculteurs d'accéder à cette protection, en fait.
Ok, et ça, c'est des types de produits d'assurance qui sont en train de se développer de plus en plus ?
Oui, tout à fait. C'est en fait considéré comme une des manières de couvrir la majeure partie des risques climatiques, notamment au niveau des particuliers. Et tu as vraiment plein de choses malines qui sont mises en place. Encore une fois, au Royaume-Uni, pour revenir sur les inondations, tu as une start-up qui s'appelle Flood Flash. Qui installe chez toi un capteur dans ta maison et ou dans ton lot au commerce hein, d'ailleurs ou dans ton entreprise et une fois que l'eau arrive à la hauteur que tu as définie dans ton contrat que tu as choisi, donc tu as un petit curseur tu vois qui te permet de choisir ok moi je veux que mon indemnisation elle se déclenche à 20 cm d'eau, 30 cm d'eau, 40 cm d'eau. Donc tu peux choisir selon bah, tu vois comment quelle est ta disposition de ton logement, par exemple, si en fait ton rez-de-chaussée c'est un garage et que tu n'y proposes pas beaucoup de choses de valeur, bah, tu n'as pas forcément besoin de te couvrir des 20 cm, tu vois. Peut-être que tu peux te couvrir plus haut et du coup payer moins cher en prix. Et donc, ça donne un règlement de sinistre très rapide, puisque le capteur est installé dans ta maison. Dès que la limite est atteinte, bah, boum, le paiement est déclenché. Sans autre formalité, si tu veux. Sans qu'il y ait besoin de dépêcher un expert qui va venir voir, qui va regarder qu'est-ce qui a été abîmé dans ta maison ou dans ton entreprise, qui va te demander la facture de ta télé pour savoir combien tu avais payé ta télé pour pouvoir estimer un remboursement adéquat avec la valeur de ta télé. Là, c'est toi qui estimes en fait le montant de tes biens assurés et qui décide du seuil de déclenchement. Et du coup, tu bypasses toute cette partie estimation de sinistre et ce qui est à la fois économise du temps et de l'argent et qui du coup permet de proposer le produit au plus grand nombre.
D'accord, ouais, c'est hyper intéressant.
Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant et ça permet de protéger beaucoup plus de monde contre les risques climatiques. Donc ça, c'est une première chose. Alors, on a déjà parlé des placements, donc il y a rediriger l'investissement vers des supports qui soutiennent la transition écologique est un levier. Créer des produits pour protéger contre les risques climatiques qui se produisent déjà, c'est un deuxième levier. Il y a un troisième levier pour les assureurs qui est de créer des produits qui encouragent la transition écologique. Et là, l'assureur, c'est vraiment l'huile dans les rouages de la transition écologique, surtout sur certains secteurs. Un secteur qui est très évident, c'est la mobilité. Où là, t'es pas sans savoir qu'il y a énormément une révolution en cours dans la mobilité. Donc, tu as toute la partie micro-mobilité, les trottinettes électriques, les vélos électriques que en tant que Parisien, on voit chaque jour. Tu as la mobilité partagée, l'auto-partage, où là, il y a aussi un gros segment qui s'est développé avec des entreprises dont la France est très fière, comme BlaBlaCar, par exemple. Et tu as toute la partie assurance de voitures électriques et hybrides, donc ça c'est un sujet que je connais très bien, où là il y a aussi énormément de business models et de produits à inventer. Et toutes ces choses-là, et sur la partie automobile, in fine, dans 10-15 ans, peut-être la voiture autonome, 100% électrique très certainement, où là il n'y aura pas cette révolution sans assurance en fait. Donc si l'assurance n'existe pas, toutes ces choses-là ne peuvent pas se produire. Et d'ailleurs, le gouvernement français a rendu l'assurance responsabilité civile obligatoire sur les trottinettes électriques il y a quelques mois pour pouvoir vraiment solidifier cette révolution.
D'accord. Parce que alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que le rôle de l'assurance est important pour faciliter en fait le développement de ces nouveaux types de mobilité ou de ces nouvelles pratiques?
Oui, alors là, ça dépend un peu des sujets. Si on prend la micro-mobilité, par exemple, donc les trottinettes, qui sont les trottinettes électriques, les overboards, les vélos électriques, voilà, toutes ces choses qui étaient encore de l'ordre du gadget il n'y a pas longtemps, mais qui maintenant, dans les grandes villes, sont véritablement des moyens de transport, quoi, empruntés par... je crois que j'avais lu une statistique comme quoi il y a quasiment autant de personnes qui empruntent une trottinette électrique ou un vélo électrique en flotte chaque jour que de personnes qui transitent par la gare de Lyon. Donc c'est quand même un vrai impact de nos jours. Donc les trottinettes électriques, par exemple, ben ça cause forcément des accidents. Il peut y avoir des collisions avec les piétons, il peut y avoir des collisions entre trottinettes électriques, etc., etc. S'il n'y a pas d'assurance, devant la multiplication de ces accidents, le régulateur n'aurait certainement pas de choix que d'interdire en fait ces modes de transport. Et plutôt que de faire ça, le régulateur rend l'assurance obligatoire de manière à, lorsqu'il y ait collision, la personne victime puisse être indemnisée. Du coup, ça permet de continuer à encourager l'essor de ces moyens de transport.
D'accord, ok, c'est très clair.
Sur l'assurance de voitures électriques, voilà, les voitures électriques, c'est un très gros enjeu des constructeurs automobiles et c'est un très gros enjeu énergétique puisque les transports... C'est, je crois, quasiment 30% des émissions de carbone dans la plupart des pays occidentaux. si pour accompagner du coup le transfert, plutôt la conversion du parc automobile vers de l'électrique, eh ben, il faut de l'assurance qui soit performante, qui soit pas très chère. Sinon, c'est un frein de plus pour les consommateurs à l'adoption.
D'accord. Et alors là, j'ai une question pour toi. Parce que, alors oui, on parle de l'électrique, tout ça. Bon, tu n'es pas sans savoir aussi que l'électrique est loin d'être parfait et qu'en fonction des pays et du mix énergétique des pays, il y a un impact carbone qui est très loin d'être neutre.
Oui.
Mais aujourd'hui, par exemple, on sait que ce qui importe le plus, en fait, au-delà de l'électrique, pas électrique, c'est le poids des voitures.
Tout à fait.
Il y a d'ailleurs pas mal de régulations qui essaient de passer en ce moment, même si c'est un petit peu difficile. Est-ce que les assurances pourraient faciliter, en fait, l'acquisition de véhicules moins lourds, juste avec, en fait, des produits adaptés?
Alors, ça, c'est intéressant, les véhicules lourds, parce que quand on parle de véhicules lourds, on parle en partie essentiellement des SUV, en fait, et de la mode des SUV qui sont extrêmement populaires, et il y a énormément de conducteurs qui font ce choix. Les SUV, d'un point de vue assurance, c'est un peu ambigu. C'est un peu ambigu parce que d'un côté, ce sont des véhicules qui sont choisis par... Typiquement, c'est des véhicules qui coûtent cher, donc ils sont choisis par des gens qui ont des moyens et qui sont donc en général des gens un peu installés dans la vie, qui sont typiquement pas des jeunes conducteurs, en fait, qui sont typiquement des gens qui ont déjà une expérience de la conduite assez de plusieurs années et qui du coup sont pas très accidentogènes, en fait. Donc d'un côté, la fréquence de risque, elle est tirée vers le bas, la fréquence de sinistre, elle est tirée vers le bas par ce phénomène. Et elle est par ailleurs tirée vers le haut, et là c'est surtout le coût de sinistre qui est tiré vers le haut par le fait que ce sont des véhicules qui sont vraiment dangereux en cas de collision pour les piétons, parce que la collision se fait assez haute, en fait, et le piéton rentre en contact avec cette structure très verticale, c'est typique du SUV, qui cause des blessures plus graves. Et également, c'est souvent des véhicules qui sont assez coûteux à réparer, en fait, parce qu'ils sont parfois avec pas mal de gadgets et d'éléments électroniques qui sont coûteux à réparer. Donc l'assureur, d'un point de vue économique, il est dans une position un petit peu ambiguë, mais où il pourrait décider d'encourager la transition écologique en diminuant les primes sur les voitures qui ne sont pas des SUV, mais qui sont conduites par le public plus expérimenté.
D'accord. Et ça, c'est des choses qui se passent, c'est des réflexions qui ont lieu en ce moment en interne, dans le milieu de l'assurance. Toi qui fais partie, qui travaille dedans depuis longtemps, comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que ça se passe? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Oui, alors c'est vraiment très, très difficile pour les assureurs de répondre à cette question. Parce que quand tu as un portefeuille d'assurance, tu as un portefeuille qui est assez établi et qui ne change pas du jour au lendemain. Donc en fait, n'importe quelle décision que tu prends, tu mets du temps avant d'en voir l'impact économique sur ton portefeuille, et tu souhaites également avoir un impact économique qui est positif, en fait, dans les décisions que tu prends. Et tu as vraiment ce clash, je dirais, entre les choix que font les différents profils de conducteurs quand il s'agit de choisir leur voiture et l'impact écologique de ces voitures sur la société. Et ça, je pense que c'est très compliqué pour les assureurs de réconcilier tout ça. Et ça bloque pas mal l'action.
Et comment est-ce qu'on pourrait essayer de débloquer la situation? Ça vient d'où? Ça vient du régulateur? Ça vient d'une pression citoyenne? Ça vient d'une nouvelle direction stratégique au sein des assurances?
Je pense que c'est un peu tout ça. Je pense que le régulateur a typiquement un rôle important à jouer. On parle là en détail de l'assurance auto. L'assurance auto, c'est un produit qui est obligatoire. Donc tout le monde, enfin, tout le monde qui a une voiture, bien sûr, doit le souscrire. Et donc, du coup, tu as une concurrence qui est assez forcenée et qui se fait quand même pas mal au niveau de la prime plutôt que des garanties qui sont proposées par l'assureur. Donc le régulateur, lui, il a un rôle effectivement pour venir lisser le terrain pour que l'environnement concurrentiel soit propice. Donc, il y a un rôle du régulateur. Il y a évidemment et très fortement un rôle de la conscience citoyenne. Je pense que quand on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. C'est-à-dire qu'on peut tous faire un choix, je pense, à notre niveau personnel, de ne pas opter pour un SUV, par exemple. Quand on achète une voiture, le nombre de SUV que je vois dans la rue, des SUV 4x4 que je vois dans ma rue parisienne, je me dis, je doute que la majorité de ces personnes aient vraiment besoin d'un 4x4, 4 roues motrices pour se déplacer en ville. Donc là, il y a clairement un aspect prise de conscience citoyenne, mais qu'il y a de la valeur que s'il est très suivi par le collectif, quoi. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui disent ça pour pouvoir avoir un vrai impact. Et les constructeurs automobiles, quelque part, ils sont dans la même difficulté, puisqu'on leur demande de réduire le poids des véhicules, mais en même temps, ils remarquent que l'appétence des consommateurs est de plus en plus vers le SUV et vers les grosses voitures. Alors, et ça a en partie freiné d'ailleurs le développement des voitures électriques dans ces dernières années, qui est que les voitures électriques étaient essentiellement des petites voitures. Tu vois, la Renault Zoé, la Nissan Leaf. Alors, il y a Tesla qui est un petit peu différent, mais c'est essentiellement des petites voitures qui ne correspondent pas forcément aux désirs des consommateurs.
Et donc, l'assurance dans tout ça, est-ce qu'elle peut flécher un petit peu ce choix par rapport à ces produits ?
Oui, je pense que l'assurance, elle peut faire pas mal de choses, à la fois en créant des produits adaptés à ces mobilités-là. Par exemple, sur la partie voiture électrique, l'assureur a clairement des choses à faire pour rassurer le consommateur sur le niveau d'assurance de sa batterie, pour fournir des services d'assistance particulièrement costauds en cas de panne de courant, en gros, de la voiture électrique, même si ça arrive à peu près 3 fois. Nos stats, c'est que, enfin, les stats marché, c'est qu'il y a à peu près 3 fois plus de pannes de courant de véhicules électriques qu'il n'y a de pannes d'essence des véhicules non électriques. Donc là, il y a une survenance de sinistre, si tu veux, qui est plus importante pour ces voitures-là. Et là, l'assureur, il a un rôle à jouer en proposant des produits qui vont pouvoir parer ce risque-là et rassurer le consommateur. Et l'assureur, il a aussi, je pense, un devoir de s'assurer de la bonne santé économique de sa chaîne de valeur de la voiture électrique et de répercuter cette bonne santé économique sur le montant des primes. Mais c'est ça qui est fascinant pour l'assurance, je trouve, c'est qu'en fait, les enjeux climatiques et écologiques, ils sont tellement proches du business, tu vois, du core business. Quand tu parles voiture et les révolutions de la voiture électrique pour un assureur auto, alors aujourd'hui, c'est tout petit. Donc aujourd'hui, en volume, ça ne se voit pas encore. Mais tu te projettes dans un monde où tu as 5 ans, 7 ans, 10 ans, où tu as 50% du parc automobile qui est électrique. Pour un assureur, c'est une révolution. Donc l'assureur, il doit apprendre à traiter ces véhicules-là. Et en termes d'opportunités d'avoir un impact, tu peux trouver pas mal d'alignement entre l'intérêt économique et l'intérêt écologique.
D'accord, et ça, je trouve ça particulièrement intéressant. C'est, puisque c'est, tu dis, on est dans un business, entre guillemets, enfin, dans un secteur où c'est tellement aligné qu'il y a énormément d'opportunités économiques associées aux enjeux.
En tout cas, il y a possibilité pour des gens motivés et talentueux dans ce milieu d'inventer des business models qui soient à la fois vertueux d'un point de vue écologique et d'un point de vue économique. Ils ne le seront pas forcément tout de suite. Là, aujourd'hui, réparer une voiture électrique pour un assureur, comme il n'y en a pas encore beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'expérience, donc on ne sait pas exactement comment faire. la chaîne de valeur de la réparation, du recyclage ou de la seconde vie de batterie, c'est quelque chose qui est encore très embryonnaire, c'est très immature comme secteur. Mais du coup, il y a des tonnes de choses à inventer. Et il y a une vraie possibilité pour l'assureur qui est avant-gardiste sur ce sujet de se créer un avantage économique pour un enjeu stratégique futur, certes, mais quasi certain. Tu vois la transition vers la voiture électrique à horizon 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est certain qu'il va y en avoir plus des voitures électriques sur la route. Le régulateur a émis un message extrêmement fort sur le sujet et les constructeurs automobiles, c'est l'électrification est un de leurs enjeux principaux. Donc, il y a énormément de choses à inventer et ces choses-là peuvent amener un impact économique positif fort pour l'assureur à moyen terme.
Et c'est vrai que là, on n'a parlé que de l'automobile, enfin pas que, mais là, c'est un petit peu. Mais c'est vrai que j'imagine qu'au niveau du logement, au niveau bien de sûr. Tout ce qui est chauffage, par exemple, et puis même de, par exemple, de la nourriture, peut-être aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Tu parlais de l'agriculture avec Oco avant. Il y a beaucoup de secteurs en fait où les assurances sont impliquées et où on pourrait flécher vers les enjeux de transition.
Exactement, exactement. Surtout qu'on parle, de risques qui sont très probables. Moi, je disais un peu plus tôt, l'assurance, il ne faut pas que ça soit une. Il faut pas que le risque ait une probabilité zéro d'arriver. Il ne faut pas non plus qu'il ait une probabilité de 1 sur les risques climatiques, tu vois, d'inondations, d'ouragans, ce genre de choses. C'est typiquement un risque qui, quelque part, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du zéro, devient de plus en plus assurable par l'assureur. Parce que l'assureur, pour pouvoir justement. Pour tarifer justement, il a besoin de sinistres. S'il n'a pas de sinistre, il n'a pas d'expérience. Et s'il n'a pas d'expérience, il ne peut pas tarifer. Donc, quelque part, et c'est un peu, comment dire, c'est un peu, pas contradictoire, mais c'est un peu rigolo de se dire ça, c'est que c'est justement parce qu'il y a plus de risques climatiques que l'assurance de ces risques climatiques va devenir plus facile.
D'accord, donc oui, c'est effectivement un peu triste quelque part, mais si ça peut permettre d'accélérer le mouvement, c'est vrai que c'est une bonne chose.
Bah, en tout cas, ce rôle de mitigation, il faut qu'il arrive, parce qu'on sait très bien que le réchauffement climatique, on a déjà engrangé quelques degrés, ça on le sait. Et quoi qu'on fasse aujourd'hui, on arrêterait de produire du carbone demain, que ce degré et demi, je crois que c'est un degré et demi, il est acquis, il va arriver. Donc là, il y a un vrai rôle de réparation de l'assureur, en tout cas de permettre à la société de continuer à fonctionner malgré ceci. Mais effectivement, il ne faut pas que ça soit une fuite en avant. Ça, tu as raison. Il ne faut pas que ça soit une fuite en avant. Mais rappelle-toi, plus on se rapproche d'un risque de 1, moins c'est assurable.
Oui,
donc, il y a un vrai intérêt à aussi prévenir... prévenir la survenance de risque. Et c'est d'ailleurs un domaine dans lequel les assureurs sont de plus en plus actifs, hein, qui est de prévenir la survenance d'accidents, de sinistres, quel que soit le sinistre. Tu as énormément d'assureurs. La plupart des assureurs vie, par exemple, maintenant, font beaucoup de prévention médicale auprès de leurs assurés. On voit énormément de contenu auprès de leurs assurés. Et en plus, les assureurs vie ont une vision très fine des causes de mortalité par âge, par sexe, etc., et peuvent vraiment apporter des conseils extrêmement targetés aux clients. Et ben, dans le risque climatique, le risque écologique, les opportunités écologiques, l'assureur, il sait énormément de choses sur les gens. Et donc, il a un gros rôle, je pense, d'influence des comportements, que ce soit en récompensant les comportements vertueux par de la prime moins chère, mais aussi un devoir d'information qui est... et des opportunités d'information qui sont très, très importantes. Nous, on sait, par exemple, tu vois, les constructeurs automobiles savent très bien comment vendre une voiture, pourquoi les gens achètent une voiture plutôt qu'une autre voiture. Nous, les assureurs, on sait très, très bien comment les gens utilisent leur voiture au quotidien. Alors, les constructeurs le savent de plus en plus parce que maintenant, il y a beaucoup de télématiques embarquées dans les voitures et du coup, ils ont aussi un peu cette vision-là. Mais bon, il y a encore beaucoup de gens qui conduisent des voitures un peu anciennes où il y a zéro télématique dans la voiture. Et donc, nous, les assureurs, on sait comment les gens utilisent leur voiture. Donc, par exemple, on est capable proactivement d'aller dire à quelqu'un qui roule peu et qui a un mode de vie urbain, avez-vous pensé à acheter une voiture électrique ? Voici des offres intéressantes sur le marché. Et puis, en plus, vous êtes assuré chez nous depuis 2, 3, 4 ans. Nous savons que vous êtes un bon risque. Du coup, nous, on vous encourage et on va pouvoir vous tarifer de manière abordable dans votre transition. Là, on a un rôle à jouer.
Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure autour de l'écosystème, autour des assurances, par exemple, en donnant l'exemple de cette start-up au Royaume-Uni qui met des capteurs dans les maisons pour voir le niveau de montée des eaux. C'est qu'en fait, il y a aussi beaucoup d'opportunités pour travailler avec le milieu assurantiel justement à la prévention des risques sur ces nouveaux produits.
Tout à fait. Bien sûr. Et ceci, et je dirais ceci d'autant plus que une des grosses choses qui bloque le secteur de l'assurance, c'est des systèmes, des process et des systèmes IT essentiellement, qui sont des gros paquebots difficiles à manœuvrer et difficiles à transformer et à changer. Ce qui est difficile, c'est difficile pour les assureurs, en fait. C'est assez difficile de lancer des nouveaux produits. Et ça, c'est en partie parce qu'il y a une legacy des systèmes qui est assez forte et qui s'explique partiellement par le fait que c'est des acteurs en général assez anciens. Alors après, on peut parler un peu des insurtech si tu le souhaites, mais voilà, ce sont souvent des acteurs assez anciens avec parfois des portefeuilles très, très établis. Et donc, du coup, tout changement amène un risque plus fort. Mais également parce qu'il y a des enjeux de gouvernance qui sont très forts dans les assurances. Il faut que les systèmes soient extrêmement sécurs, et ça, c'est normal, parce qu'il faut protéger les données des assurés, il faut protéger, on deal quand même avec des choses qui sont extrêmement sérieuses et impactantes pour la vie des gens et des entreprises. Mais donc, du coup, parfois, qui dit système extrêmement sécure et stable, dit système peu flexible, peu agile. Et donc, du coup, tu as un développement, effectivement, souvent d'ailleurs dans le monde de la start-up, de tout cet écosystème autour de l'assurance qui vient pour apporter cette flexibilité. Et donc, l'assureur est là pour amener la dimension financière, la capacité d'écrire des papiers d'assurance, parce que quand on achète de l'assurance, c'est ça, on achète une promesse écrite sur un papier, en fait. Hein. C'est juste ça qu'on achète. Et l'assureur peut faire ça. Et tu as tout un tas de startups comme Floatflash, mais t'en as plein d'autres qui amènent des solutions malines et qui peuvent venir complémenter l'assurance et permettre de bouger plus vite.
Fanny, on arrive à la fin de notre entretien et je voulais savoir si tu avais des conseils ou des messages à faire passer pour ceux qui veulent s'engager, qui sont soit dans le secteur de l'assurance déjà aujourd'hui, ou pas encore, mais qui trouvent ça intéressant et qui voudraient s'engager dedans.
Alors, moi, le message principal que je voudrais faire passer, c'est qu'il faut s'engager dans l'assurance, qu'on y travaille ou qu'on n'y travaille pas. Parce que c'est un secteur central, et on l'a déjà couvert, qui comprend très, très bien les changements de mode de vie et qui les voit tout de suite. On a parlé des voitures, l'assureur le voit tout de suite. C'est un secteur qui est indispensable à la transition écologique et sociale. Et c'est aussi un secteur où il y a des moyens financiers. Donc, OK, les lancements de nouveaux produits peuvent parfois être un peu plus longs et douloureux que dans le monde de la start-up où il y a zéro legacy. Mais il y a des moyens financiers derrière qui rendent les choses possibles. Et en même temps, c'est un secteur qui est parfois difficile et parfois un peu ingrat parce que beaucoup de régulations, beaucoup de gouvernance, des systèmes très solides et du coup souvent très figés et des aventures entrepreneuriales qui sont rendues plus difficiles du fait des besoins en capitaux et en expérience et de tous ces sujets de régulation et de gouvernance. Et moi, je vois autour de moi énormément de start-up et de projets entrepreneuriaux qui soutiennent la transition écologique. Et moi, je les trouve absolument géniaux, tous ces projets. Et j'ai une admiration sans borne pour toutes les personnes qui se lancent là-dedans, qui parfois, et tu en as couvert plein dans tes interviews, Jean-Philippe, mais qui parfois lâchent des jobs extrêmement rémunérateurs et à statut pour des aventures beaucoup plus incertaines où le bien commun est au centre. Donc moi, je les admire énormément. Mais dans l'assurance, c'est plus difficile de faire ça. Et donc, du coup, il faut qu'il y ait des talents et des gens engagés dans la transition qui ne boutent pas les postes au sein des grosses entreprises d'assurance parce qu'on a besoin d'eux, quoi. Et ça, c'était vraiment le message que je souhaitais passer. Et parce qu'il y a cette opportunité, enfin, en tout cas cet alignement possible entre les economics et l'écologie, il est souvent possible dans ces grosses entreprises, et j'ai eu la chance de l'expérimenter ça moi-même, de trouver des gens et des sponsors très seniors qui aident dans les initiatives. Donc, il y a beaucoup de possibilités et je me réjouirais s'il y avait encore davantage de talents qui s'engagent dans ce secteur avec une volonté forte de faire bouger les lignes et de trouver ces opportunités presque, je dirais, bicorp où l'intérêt économique et l'intérêt écologique sont alignés.
Merci beaucoup Fanny pour ton témoignage et ton message, et je suis vraiment content qu'on ait pu faire cet entretien, parce que c'est vrai qu'on a souvent une image de l'assurance qui peut être un petit peu biaisée ou on comprend mal son fonctionnement. Grâce à toi, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde, en tout cas ça l'est pour moi, et on voit que c'est aussi un secteur central pour s'engager, et du coup voilà, ça donne plein d'idées, ça donne beaucoup d'envie. Donc vraiment merci pour ton témoignage, et puis je te souhaite bon courage pour la suite, et puis je te dis à très bientôt.
Avec plaisir.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, osez !